chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour deux émissions en direct qui nous amèneront bien sûr jusqu'à 21h, donc deux parties. Nous recevons tout d'abord Thomas Oswald, qui est journaliste, notamment au service information de l'aide à l'Église en détresse, cette magnifique association qui aide les chrétiens persécutés dans le monde. Eh bien, il publie avec Benoît de Blanpré, qui est le directeur de cette association, un livre très émouvant, très intéressant, un livre d'actualité intitulé « Témoins de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps ». C'est aux éditions Arthège et nous allons, grâce à lui ce soir, rencontrer un certain nombre justement d'apôtres de notre temps. Et puis à 19h30, nous recevons Xavier Fontanet, qui est dirigeant d'entreprise, professeur de stratégie, ancien PDG d'Essilor. Il vient d'écrire un livre passionnant, lui aussi un livre d'actualité, mais une autre actualité sur l'économie, et notamment l'économie française, qui est dans un bien triste état. Il le publie sous une forme très vivante, très pédagogique, intéressante, qu'il a intitulé « Le grand-père et le président ». Il s'imagine en grand-père du nouveau président de la République après, bien sûr, les échéances électorales de 2027. Il publie ça aux éditions Valeurs Ajoutées. C'est un titre, c'est une maison d'édition au titre prémonitoire, puisque la valeur ajoutée, c'est vraiment, effectivement, la clé de l'économie. Et c'est là où pêche, entre autres, l'économie française. Nous allons en parler à partir de 19h30. Je rappelle que nous avons la grande chance d'avoir Laurent au standard, qui sera ravi de prendre vos messages, vos questions, vos suggestions que nous proposerons à nos invités. Vous pouvez le faire par téléphone. 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. N'hésitez surtout pas, chers auditeurs. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission en direct donc. Les guerres d'Ukraine, de Gaza et d'Iran focalisent notre attention au détriment d'autres événements dont la multiplication est préoccupante. Ainsi, il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde autant de martyrs chrétiens qu'à notre époque. Cela peut surprendre au temps de l'intelligence artificielle et de sa révolution numérique. Il s'agit pourtant d'une triste réalité assez peu évoquée et parfois bien vite escamotée, déguisée en conflits ethniques. Mais ces drames se produisent aussi dans des pays dits démocratiques où la majorité peut se montrer persécutrice de minorités religieuses. Il y a ainsi dans le monde beaucoup de chrétiens qui souffrent à cause de leur religion. Et ces chrétiens sont aussi nos frères. Nous ne pouvons rester indifférents à ces drames. C'est ainsi que nous recevons régulièrement l'ONG Portes Ouvertes, une association chrétienne évangélique qui défend et aide ces chrétiens, tous les chrétiens persécutés dans le monde. Eh bien, il y a l'équivalent, une autre organisation tout aussi belle, bien sûr, et cette fois-ci dans l'Église catholique, c'est son frère jumeau, si on peut dire, ou sa sœur jumelle, qui s'appelle l'AED, d'ailleurs je crois qu'ils se connaissent, qu'ils échangent entre eux. Eh bien, l'aide à l'Église en détresse aide aussi magnifiquement ces chrétiens persécutés dans le monde, et justement, l'AED, à travers deux de ses membres éminents, de ses salariés éminents, publie un livre témoignage de ces aides, de ces rencontres, à travers justement leurs interventions sur ces chrétiens qui célèbrent l'Eucharistie, prient et confessent le Christ, souvent au péril de leur vie. Ce livre nous permet justement de rencontrer ces témoins cachés, ces prêtres, ces religieux, ces catéchistes, ces familles qui vivent l'Évangile au cœur du danger, et ils deviennent ainsi pour nous des exemples. Nous avons le plaisir de recevoir l'un des deux auteurs de ce livre, Thomas Oswald, qui publie avec Benoît de Blanpré, Témoins de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps, aux éditions Arthège. Thomas Oswald, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. dans le studio, malgré la chaleur écrasante. Alors, le studio, fort heureusement, est climatisé, mais vous avez l'habitude de cette chaleur, hein, parce qu'il y a quand même souvent une conjonction entre la chaleur écrasante et les régions où les chrétiens sont persécutés.
Alors, c'est étonnant. Hein. Ça se vérifie effectivement dans pas mal de régions du monde, et en particulier dans le Sahel, qui est peut-être le point de préoccupation le plus grave en ce moment, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres, que ce soit au Sahel, au Moyen-Orient et même en Amérique latine, ce qu'on n'imagine pas forcément toujours. Mmh. Il y a des endroits où l'Église est en détresse et où elle a besoin du soutien de l'Église universelle.
On pourra ajouter l'Inde aussi, très surprenant.
Tout à fait.
L'Inde qui est une démocratie et puis d'autres pays. Nous allons évoquer tous ensemble. Je vous présente aux éditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes déjà venus, donc ils vous connaissent certainement, mais je rappelle que vous avez fait des études de philosophie et de journalisme. Vous êtes votre fonction, l'une de vos fonctions, parce que vous avez plusieurs fonctions différentes, nous allons le voir. Vous êtes journaliste au service information donc de l'AED, de l'aide à l'Église en détresse. Et puis vous êtes aussi scénariste de bandes dessinées.
Tout à fait.
Et vous avez d'ailleurs, vous en avez écrit de plusieurs, une dizaine, je crois.
C'est ça, à peu près une dizaine. Alors, je perds un peu le compte parce qu'il y en a toujours une qui est en train de se finir, une autre qui est en cours, mais c'est à peu près une dizaine de bandes dessinées, oui, que vous trouverez.
Ça vous demande combien de temps de travail une bande dessinée?
Oh, c'est excessivement variable. Et surtout, ça m'en prenait beaucoup plus au début de ma carrière que maintenant. Maintenant, il y a des mécanismes qui se mettent en place et donc c'est un peu moins long à faire. Mais c'est très difficile à évaluer parce que le temps d'écriture en soi n'est pas excessif parce qu'il n'y a pas énormément de texte dans une bande dessinée. Le temps de recherche et le temps de choisir son sujet et de restreindre, parce que dans une bande dessinée, il faut être très synthétique, ça, c'est beaucoup plus long. Et après, dans une bande dessinée, il y a un autre aspect, c'est que je ne suis pas dessinateur, donc je travaille toujours avec un dessinateur, donc il y a énormément de dialogue avec le dessinateur pour s'entendre et arriver à faire une œuvre commune.
Qu'est-ce qui vous a amené à créer des bandes dessinées? C'est un public différent des livres. Là, nous vous recevons pour ce livre, Témoins de l'espérance, aux éditions Arthège. La bande dessinée, c'est un autre public, j'imagine.
C'est un autre média. C'est des publics qui peuvent se recouper. En général, la bande dessinée, ce sont souvent des gens un peu plus jeunes, enfin, en tout cas auprès du public catholique, un public un peu particulier. Pour la plupart des gens, la bande dessinée, c'est un média qui est pour les adultes, mais chez les catholiques, ça reste quand même associé à la jeunesse. Mais dans les deux cas, en fait, quand on écrive un article ou qu'on écrive une bande dessinée, on va raconter quelque chose et faire en sorte qu'un sujet qui paraît ardu, qui paraît réservé à des professionnels, soit au fait intéressant. On va montrer un aspect du sujet qui va accrocher le lecteur et le faire entrer dans ce sujet-là. La bande dessinée a cette vertu-là que je trouve extraordinaire, c'est vraiment en quelques traits de dessin, immédiatement l'attention du lecteur est captée et immédiatement il va assimiler tout un contexte, toute une ambiance, une atmosphère grâce au pouvoir du dessin, surtout quand il y a un bon dessinateur, évidemment.
Plus que pour un livre.
Disons que la bande dessinée va attirer l'œil plus facilement, même sans demander l'avis au lecteur, à la limite. Oui. C'est presque comme la musique. On n'a pas besoin de demander à l'auditeur d'écouter la musique. Si on la lance, elle s'impose à lui. Dans le cas de la bande dessinée, c'est pareil. Quand il y a un dessin qui accroche l'œil, tout de suite, on va avoir envie de plonger dedans. Le livre, il faut déjà ouvrir les pages, le parcourir, c'est autre chose.
Je citerai deux bandes dessinées que vous avez écrites. D'une part... Suis l'homme blanc.
Oui, suis l'homme blanc.
Suis l'homme blanc, c'est ça. Non, pardon.
L'homme en blanc.
C'est pas du tout pareil.
Non, c'est pas pareil.
Pardon. Suis l'homme en blanc.
L'homme en blanc.
Et il s'agit d'une histoire de Preux-Popou.
Preux-Popou. Alors,
ouais. Qui c'est ce Preux-Popou?
Alors, Preux-Popou, ça signifie littéralement le grand-père de Preux-Pot. Preux-Pot, c'est le nom d'une petite fille. Parce que chez les Carènes, quand on devient père, on change de nom. Moi, je suis le père de ma première fille, c'est Manon, donc je serai Manon Po, le père de Manon, m'appellerait maintenant, j'aurais changé de nom. Et quand on devient grand-père, on va prendre, pareil, le nom de sa petite fille avec grand-père qu'on ajoute derrière. Donc lui, cet homme...
Ça, c'est chez les Karen.
C'est chez les Karen, donc c'est une ethnie qui est à mi-chemin entre la Birmanie et la Thaïlande, et qui a une grande partie de cette ethnie qui est chrétienne. Et lui, ce Preux-Popou, il est né un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est le premier converti de sa vallée, de sa région, et il a amené tout un village, enfin toute sa famille d'abord, puis tout un village à se convertir au christianisme. Et c'est l'histoire de sa conversion complètement hors norme que j'ai racontée dans cette bande dessinée. À l'origine, je l'avais rencontré dans un reportage. J'avais trouvé l'histoire absolument extraordinaire. Et je m'étais dit, on peut en faire un roman, voire on peut en faire une bande dessinée. Je découvrais les bandes dessinées de reportage en plus à cette époque-là. Et donc, je suis parti avec mon petit crayon. Il se trouve que j'ai rencontré un dessinateur que je trouve exceptionnel, que je salue s'il nous écoute, qui s'appelle Jean-François Cellier, qui a bien mordu à ce sujet-là et qui a accepté de sortir quelques planches. Et avec ces quelques planches, j'ai juste démarché 4 maisons d'édition. Il y en a 2 sur les 4 qui ont voulu du projet. Et donc, ça a commencé comme ça.
Et puis, vous avez aussi écrit Charles de Foucault, Le Marabout de Thomas Rosset. Et ça, c'est chez MAM.
Chez MAM aussi, exactement. Alors ça, c'était à
l'occasion... chez MAM, Propopou aussi ?
Non, Propopou, c'était les éditions du Rocher.
D'accord.
Éditions du Rocher, le groupe Elidia, si vous voulez. Et le Marabout Thomas Rosset, elle est sortie pour le centenaire de la mort de Charles Foucault. Et ça, c'est une bande dessinée qui fait plaisir parce qu'elle continue à se vendre, alors que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant qu'elle est sortie. Elle s'est installée dans le paysage, alors qu'il y a quand même beaucoup de bandes dessinées qui ont été faites sur Charles Foucault maintenant, y compris des grands noms. Il y a Jigé qui a fait une bande dessinée qui est connue. Il y a Dufaux au scénario qu'en a fait une il y a peu de temps, après la mienne d'ailleurs. Mais elle continue à fonctionner, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des petits albums comme ça qui continuent à faire leur bonhomme de chemin.
Un double métier donc, Thomas Oswald, à la fois scénariste de bande dessinée et donc journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme ? Parce que vous avez plutôt fait des études de... Vous avez fait des études de philosophie au départ, et puis vous devenez journaliste. Vous avez fait une école de journalisme, avez-vous précisé. Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme ?
J'ai toujours aimé, à la base, raconter des histoires, et puis écrire des scénarios, raconter, ça a toujours été mon truc, et à l'écrit en plus. Donc naturellement, on se tourne vers le journalisme. Et les stages que j'ai fait au tout début m'ont tout de suite convaincu que ça me plaisait. J'ai fait des stages à la Manche Libre, j'ai fait des stages au magazine L'Entreprise, qui n'existe plus maintenant, mais c'était Guillaume Roquette à l'époque, qui était le directeur de la rédaction, avec qui j'ai parlé, qui m'a bien aidé à me lancer dans le métier. J'ai même fait un stage en radio et j'ai tout de suite beaucoup apprécié. C'est pas une blague, c'est pas parce que je suis là que je dis ça, mais j'apprécie beaucoup le caractère très léger de la radio. C'est le média qui coûte le moins cher et qui est le plus accessible. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'aide à l'anguille en détresse, il arrive qu'on soutienne des radios. On peut se dire que c'est peut-être pas notre métier, mais au fait, très souvent, dans les zones de guerre, c'est le seul média que les gens peuvent capter. C'est quelquefois le seul lien qu'ils ont avec leur communauté, leur église. Donc c'est un média qui peut avoir cette force-là et qui est vital à ce point-là.
Vous étiez à quelle radio ?
Radio Sud.
Mon Dieu.
Radio Sud. Alors, il ne faut pas confondre avec Sud Radio. Radio Sud, c'est la radio...
différent. Ouais.
Ah, ça n'a rien à voir. C'est une radio associative à Besançon qui n'a absolument rien à voir avec Sud Radio. Voilà.
Très bien. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, si vous le voulez bien, Thomas Oswald, de nous présenter ce qu'est l'aide à l'Église en détresse.
Oh, c'est une fondation.
Son histoire et puis.
Alors, c'est une fondation pontificale, hein, pour parler.
Qu'est-ce que c'est qu'une fondation pontificale ?
Elle est de droit pontifical. Donc, nous avons l'imprimatur du Vatican, nous avons un directeur de conscience, nous sommes complètement une œuvre d'église, à 100%. À l'origine, l'aide à l'église en détresse, ça a été fondé il y a bientôt 80 ans. L'an prochain, nous fêterons les 80 ans, d'où le livre, hein, en partie. C'est une des raisons qui nous a poussé à faire ce livre. Elle a été fondée par le père Werenfried. Père Werenfried, père hollandais, qui s'occupait des Allemands.
Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est incroyable, parce que Portes Ouvertes a aussi été fondée par un hollandais. Alors lui, est protestant évangélique. Mais le père Werenfried, vous voyez, aussi néerlandais, incroyable. Hein.
Et on apprend des choses.
Hollandais, c'est... Ah oui. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais j'ai trouvé ça saisissant.
Oui, comme quoi l'église de Hollande a produit de grandes choses. Elle pourrait recommencer dans un avenir, on espère. Donc le père Werenfried s'est occupé des Allemands, des catholiques allemands, qui, on était en 45, c'était juste après 47, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient dans un état de pauvreté matérielle, mais aussi spirituelle, absolument désastreux. Et en particulier les Allemands qui étaient dans l'Allemagne de l'Est, qui était encore accessible à l'époque. Et il a commencé à apporter des prêtres, à apporter des missions, puis il s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien. Donc il leur a apporté aussi de la nourriture, des biens de première nécessité. On l'a appelé l'abbé Ollard à cette époque-là, parce que devant le dénuement des gens, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, à l'ouest ils étaient quand même moins démunis, ils disaient « je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas donner d'argent, mais si vous pouvez donner un porcelet, ça aidera parce que là-bas ils n'ont rien à manger ». Et ça a très bien marché. Il a reçu des troupeaux de porcelets. Et depuis, on l'a appelé la Béolard. Il arrivait avec ses porcs.
Avec ses
troupeaux de porcelets, de porcs, qui partaient d'ouest en est. Il a fait aussi les fameux camions chapelles qui font partie des temps héroïques un peu de l'aide d'Alexandre XIII, où on avait ces camions qui pouvaient se transformer en chapelle et qui servaient à donner des messes itinérantes. Dans l'Allemagne de l'Est, où il y avait très peu de prêtres catholiques pour desservir la population qui était là-bas. Donc ça a commencé là, et puis il s'est rendu dans les pays soviétiques à l'Est. Et là, il s'est rendu compte que le dénuement était peut-être encore plus grand, et qu'en plus, il y avait évidemment une hostilité des gouvernements en place que vous imaginez. Et toute cette zone-là s'est fermée hein, au fur et à mesure que l'URSS aggravait son emprise sur ces régions-là. Malgré ça, il a essayé de soutenir ces églises-là. Et partout où il a voyagé, il s'est rendu compte que l'Église pratiquement avait besoin d'aide. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu une œuvre pardon, internationale qui va jusqu'en Amérique latine.
Mais comment ça s'est développé? Quelle organisation a été mise en place pour justement... mener ses actions dans ces pays de l'Est notamment.
Au début, c'était vraiment le charisme du père Werenfried qui déclenchait, un peu comme un Raoul Folreau, si vous voulez, c'est vraiment son charisme qui déclenchait les mouvements des donateurs vers les personnes qui avaient besoin de cette aide-là. C'est quelqu'un qui savait construire des ponts, quoi, si vous voulez, qui montrait, bah, regardez, ils font partie de l'Église universelle, ils ont besoin de votre aide, avec un peu d'argent de chez vous, on peut faire un travail absolument monumental chez vous. Et c'est comme ça que l'œuvre a grandi morceau par morceau. Mais maintenant, le père Werenfried est mort depuis longtemps maintenant, et il y a eu des relais qui se sont mis en place, et l'œuvre maintenant, elle est présente dans l'essentiel des pays du monde, soit avec des bureaux comme en France où on va collecter des dons et on va après aider dans des pays étrangers, soit des pays qui sont aidés. Il y en a quelquefois qui sont les deux, comme le Mexique, qui est à la fois un pays où l'Église est aidée, parce qu'il y a des régions au Mexique où l'Église a besoin d'aide, mais il y a aussi un bureau qui collecte des dons au Mexique.
Donc des Mexicains qui donnent.
Des Mexicains qui donnent.
De la même manière. Mais de sources contrôlées, organisées par l'AED, en quelque sorte.
C'est ça.
Source locale et une source qui provient. Mais vous êtes une œuvre française. Alors, c'est le père Werenfried, il est néerlandais, mais quand on pense à l'AED, on pense forcément à une œuvre basée en France, une œuvre française.
Alors, non, on est.
C'est faux. Comment êtes-vous organisé maintenant?
Alors, la tête est en Allemagne, à Königstein.
C'est vraiment européen, international. Alors pourquoi a-t-on cette image française?
Parce que nous, on l'appelle l'aide à l'Église en détresse, mais à l'international, on n'est pas connu du tout comme ça. On est connu comme ACN, Aid to the Church in Need, ou alors en allemand, sur beaucoup, c'est Kirche in Not. Mais alors, je ne suis pas germanophone, donc désolé. Mais, mais on est connu plutôt sous ces deux noms-là, et surtout comme l'anglais domine un peu tout, beaucoup comme ACN et pas beaucoup comme l'aide à l'Église en détresse. Mais en France, l'œuvre a pris beaucoup d'importance, et d'ailleurs je dois dire merci aux donateurs, parce que nous sommes le premier bureau en quantité de dons reçus en France depuis de nombreuses années.
Mais quels sont les effectifs totaux? Comment est-ce réparti?
Alors, totaux, j'aurais du mal à vous dire. En France, on est 26 permanents.
Oui, c'est important.
Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui ne travaillent pas à plein temps à l'AED, qui vont travailler soit à moi, c'est un mi-temps, il y en a d'autres où c'est plus ou moins. Mais il y a beaucoup de temps partiel, si vous voulez. Mais il y a 26 permanents. Et après, il y a une armée énorme de bénévoles. Et sans eux, évidemment, rien ne serait possible. C'est eux qui tiennent la boutique, quelque part.
Vous avez une idée des effectifs mondiaux? L'ordre d'idée
Non, je peux vous dire qu'à Königstein, ils sont le double de nous, donc presque 50-60 personnes.
Donc en Allemagne?
En Allemagne, voilà. Après, les autres bureaux, je sais qu'au Mexique, ils sont deux parce que je les connais.
D'accord.
C'est vraiment un tout petit bureau. Il y a vraiment toutes les tailles de bureaux qui existent après. Le bureau espagnol est très gros. D'ailleurs, ils ont bien augmenté leurs dons. Ils vont peut-être nous talonner un jour. Il y a un bureau important en Grande-Bretagne. Assez logiquement, ça suit les pays catholiques. Un peu moins en Italie, parce qu'il y a beaucoup d'autres œuvres, j'imagine. Mais il y a un bureau polonais, il y a un bureau...
Alors, double question, comment intervenez-vous? Sur quel type de projet? Quelle aide apportez-vous? Et puis, surtout, comment vous vous organisez? Puisque vous avez des bureaux dans des pays différents, comment vous répartissez-vous, justement, vos interventions?
Alors, le bureau de Königstein a pour fonction de recevoir les demandes de dons, de voir si le projet rentre bien dans ce qui est le cadre de l'œuvre de la Guise en détresse, et après d'avaliser ou non les projets qui leur sont font parvenir. Nous, quand on a une demande de projet, on en réfère à Königstein, si vous voulez. Nous, notre travail, ça va être de communiquer sur ce que fait l'AED, de récolter les dons, et après de les faire parvenir à Königstein, qui est le centre, si vous voulez, névralgique de l'œuvre.
Ah, ce sont eux qui vont venir parvenir les dons dans les pays concernés.
C'est ça, tout à fait, oui.
Mais comment vous répartissez-vous entre les dons que vous faites circuler, que vous communiquez à ceux qui le demandent après qu'ils aient été validés, et vos interventions sur le terrain? Parce que votre livre, bien sûr, on va parler de votre livre, oui, naturellement, Thomas Oswald, que vous avez coécrit avec Benoît de Blanpré. Alors lui, il est directeur du bureau français.
Exactement, c'est ça. Le directeur du bureau français.
C'est ça. À l'évidence, on lit votre livre, vous rencontrez les apôtres de notre temps, vous, oui, nous parlez, et donc vous rencontrez ces personnes qui expriment un certain nombre de besoins. Étonnamment d'ailleurs, leur premier besoin, c'est compris pour eux, c'est ce qu'ils disent.
Oui, qu'on parle d'eux, qu'on les oublie pas,
c'est ça.
Compris pour eux, oui.
Mais bon, il y a quand même aussi toute une aide matérielle, hein,
bien sûr,
parallèlement.
Voilà, on a fait la devise de l'aide à l'église en détresse, c'est informer de ce que je fais là un peu en ce moment, ensuite prier et ensuite aider matériellement,
c'est
concrètement. C'est les trois piliers.
Vous allez sur place?
Oui, bien sûr. C'est absolument indispensable.
À l'évidence, vous allez sur place, c'est ça. Oui. Mais alors, là encore, même question. Comment êtes-vous organisé? Qui va où? Qui fait quoi? Comment est-ce là aussi
réparti? Il y a plusieurs façons de voyager à l'aide à l'église en détresse. Il y a des voyages qui sont organisés pour aller voir les projets. Et là, on va réunir des personnes de plusieurs équipes pour aller voir les projets et voir est-ce que ce projet est opportun? Est-ce que vraiment on a bien fait de placer nos billes sur ce projet-là? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Voilà, évaluer les choses. Mais c'est aussi des visites de courtoisie. Et ça a l'air... j'ai pas fait exprès de la courtoisie. Mais c'est aussi des visites qui sont très importantes pour les personnes. À chaque fois, ils sont ravis de nous voir et de nous rencontrer en chair et en os. Ça, on tient beaucoup à la rencontre personnelle, même si c'est quelque chose qui, évidemment, coûte de la ressource et évidemment prend du temps. C'est absolument indispensable de rencontrer les personnes. Après, moi, c'est un peu particulier parce que je suis un journaliste. C'est indispensable que je me rende sur place.
Bien entendu, voir les choses, évoquer,
prendre mes photographies, rencontrer les personnes.
Alors encore, comment vous répartissez? Est-ce qu'il y a une zone allemande? Est-ce qu'il y a une zone française?
Non.
Est-ce qu'il y a une zone espagnole? Comment ça se passe?
On se débrouille, en vrai.
Comment?
On se débrouille. On se débrouille, c'est-à-dire que...
Vous répartissez les...
On se répartit. Moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à me rendre beaucoup dans l'Afrique francophone, parce qu'il y a moins de personnes qui parlent français, si vous voulez, à Königstein que nous en France. Après, je parle un peu espagnol, donc je peux aller en Amérique latine, même si j'ai beaucoup de progrès à faire en espagnol, mais j'arrive à communiquer. La langue est importante. Après, ça m'est arrivé d'aller en Ukraine, alors que je ne parle pas russe ni l'ukrainien, et bon, j'avais des interprètes qui faisaient le travail pour nous, si vous voulez.
Oui. Alors ça, c'est le travail d'information que vous faites,
oui.
Mais il y a aussi donc le travail de validation et de suivi des projets. Donc là, c'est en fonction de ce que le siège allemand a réparti,
oui,
par pays, et c'est là où vos équipes locales prennent le relais pour... mener,
ça se fait collégialement, c'est-à-dire que pour tout ce qui est projet, il y a une équipe qui est spécialisée dans les projets, qui est à Königstein, mais nous sommes invités assez régulièrement à nous rendre sur place pour nous-mêmes voir de nos propres yeux, participer à la prise de décision et à l'information.
Et, alors, question indiscrète, bien sûr, quel est le budget à peu près de l'AED?
Je ne peux pas vous dire.
L'ordre d'idée?
Je ne peux pas vous dire parce que c'est pas du tout ma partie. Mais il faudrait que je reprenne les chiffres. Mais c'est plusieurs. Je crois qu'en France, on est en termes de dons récoltés, on doit être. Cette année, je crois qu'au dernier chiffre, on était à 7 ou 8 millions. On doit être sur 20 millions à l'année.
Oui, sur tous les pays.
Sur la France.
Sur la France, 20 millions, oui. D'accord. Et donc, on peut au moins une centaine de millions, alors j'imagine, dans le monde.
Je ne suis pas sûr, parce que le bureau français est vraiment atypique.
Vraiment très important.
C'est vraiment un bureau très important.
Oui.
C'est une offre qui est très, très importante, oui. Oui, de toute évidence, oui.
Les Français seraient-ils plus généreux qu'on ne le croit?
Les Français sont généreux, hein. Ça c'est un fait qui est assez connu
fait,
en termes d'association globalement. Les Français, les catholiques a fortiori sont généreux, et sans eux, évidemment, il n'y a rien de ce qu'on fait qui ne pourrait se faire.
Qui sont vos interlocuteurs dans les pays où vous intervenez?
Souvent les religieuses, les évêques, les prêtres. Ça peut être aussi des laïcs engagés dans l'église. Je dirais que la prise de contact avec un interlocuteur est assez longue. Konigstein met beaucoup de temps avant d'avaliser un projet. Nos collègues de Konigstein, ils sont excessivement prudents. Ça prend quelquefois des années. C'est quelquefois très frustrant, évidemment, pour les personnes qui demandent. Mais une fois que la relation de confiance est établie, au contraire, là, ça va vite et les projets suivants avancent vite. C'est ce qui fait que l'aide à l'aiguille en détresse fait de l'aide d'urgence quelquefois, alors que ce n'est pas du tout notre métier ni nos compétences. Mais quand on a un évêque, un prêtre, une religieuse qui a sur les bras des centaines de milliers, enfin peut-être pas des centaines de milliers d'un coup, mais des milliers de réfugiés qui s'abritent dans sa paroisse ou dans son couvent, ils nous appellent en disant je ne sais pas quoi faire, j'ai pas les moyens, j'ai rien du tout, je suis déjà très pauvre et j'ai des milliers de personnes sur les bras. Et là, nous, on la connaît, on sait que c'est une personne
Et
en
donc
qui on peut
là,
avoir
vous pouvez
confiance,
réagir
et là, on
rapidement
réagit
en
rapidement,
fonction de
effectivement.
la confiance, en effet.
Souvent, en partenariat avec Caritas, qui
Oui.
eux, pour le coup, sont beaucoup plus dans la compétence de l'aide d'urgence. Oui.
Vous intervenez dans des pays où l'Église est clandestine, comme la Corée du Nord, totalement clandestine même. Corée du Nord.
Corée du Nord, c'est très particulier.
Oui.
Si on intervenait, je ne pourrais pas vous le dire.
Oui, bien sûr.
Mais il y a des pays compliqués dans lesquels on intervient. La Chine, on dit qu'on y intervient, mais je ne vous donne même pas le chiffre de projet et je ne vous donne aucune personne. D'ailleurs,
Où il y a
aucune
un
des
chapitre,
personnes.
hein, vous consacrez un
Il y a un
chapitre sur
chapitre, mais dans
la Chine
lequel
dans
il n'y
votre
a aucun
livre.
élément qui permette d'identifier les personnes avec
Oui.
qui on est en contact. La Chine, c'est à la fois un régime qui est très répressif, mais qui en plus a les moyens de surveiller tout le monde, ce qui est, oui, ce qui est terrible évidemment pour les personnes qui vivent là. Donc c'est pour ça que c'est assez emblématique.
Oui, c'est un chapitre poignant que vous racontez sur la Chine. Nous allons en parler d'ailleurs. Hein.
Mais sur la
Oui.
Corée du Nord, pardon, il y a vraiment des chrétiens cachés en Corée du Nord, hein, j'en suis
Oui.
absolument convaincu. Et nous avons notamment rencontré un prêtre qui, lui, ne peut pas se rendre en Corée du Nord évidemment, mais s'occupe des Coréens qui ont fui la Corée du Nord. Et quand ils se font rattraper, on leur pose trois questions. Et parmi les questions qu'on leur pose, c'est « Avez-vous rencontré un prêtre pendant votre temps où vous étiez évadé ?» Donc le régime a en ligne de mire les chrétiens et spécifiquement les catholiques, puisqu'ils disent prêtre.
Thomas Oswald, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la présentation de l'aide à l'église en détresse.
Ah oui, il y a un élément qui est
Oui.
important. Je vous parlais de l'importance de se rencontrer en personne, en chair et en os. Chaque année, nous organisons la nuit des témoins. Et là, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tout à l'heure, on disait que les membres de l'AED allaient dans les pays. Là, on fait venir trois personnes, deux pays où les chrétiens sont persécutés et où ils vont témoigner de ce qu'ils vivent. Et c'est souvent des témoignages très poignants et on fait des veillées de prières et de conférences. Et ça permet justement à nos amis, à nos donateurs de rencontrer ces personnes. Ça nous permet de leur faire rencontrer des journalistes. Et l'expérience prouve que c'est très efficace et très fécond justement pour continuer dans la lignée de ce qu'a fait le père Werenfried, essayer d'unir le plus possible l'Église universelle, lui rappeler que l'Église n'est pas juste l'Église de France, que l'Église
Oui.
est très grande et qu'il y a des réalités très diverses et qu'elle est très riche.
Cette nuit des témoins, c'est à Notre-Dame, je crois, donc, que vous
Alors,
faites ça.
cette année, l'an précédent, c'était Notre-Dame. L'année 2026, ce sera à Saint-Sulpice. Ce n'est pas toujours au même endroit.
Et peut-être avez-vous déjà une date après?
Oui, ce sera la fin novembre, du 15 au
Bon.
22 novembre, si je vous dis pas de
Tout le
bêtises.
monde peut se rendre à
Tout
cette
le monde peut se
nuit des
rendre, et puis
témoins?
surtout, on circule à travers la France pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, il y aura une messe qui sera dite à Ajaccio, avec des témoignages. On a Ajaccio, Toulouse, Brest et Lille, si je vous dis pas de bêtises. À vérifier sur le site de l'aide à l'Église en détresse, s'il vous plaît, parce que à force, je mélange les villes.
Je vous propose donc d'en venir à ce livre que vous co-écrivez et co-publiez avec le directeur de l'AED, donc France, hein, Benoît de Brompé, pardon, que vous avez intitulé donc À la rencontre des apôtres de notre temps, que vous publiez aux éditions Arthège. Donc deux questions. Qui sont ces apôtres de notre temps et pourquoi ce livre maintenant?
Les apôtres de notre temps, c'est des personnes que nous on rencontre et où on se dit, s'il y avait Pierre, Paul et tous les autres apôtres qui, enfin, pas Paul justement, mais si on peut le compter comme un apôtre quand même, s'il vivait de nos jours, il ressemblerait à ça, quoi. Ce sont des personnes dont toute la vie est consacrée à leur foi et dont la foi est vérifiée au creuset des épreuves terribles qu'ils traversent. Et ils la gardent intacte et ils la transmettent, et ils ont à cœur de la transmettre, comme les apôtres eux-mêmes avaient à cœur de transmettre leur foi. c'est des gens qui brillent de cette foi qu'ils transmettent. Donc ça peut être un prêtre du fond du République démocratique du Congo, ça peut être une religieuse du Liban, c'est toutes ces personnes-là qui sont la force incroyable de l'Église, qui a toujours été la force de l'Église, ce sont ces personnes-là qui l'ont fait vivre. Mais il y en a de nos jours, elles vivent parmi nous, et nous, on a la chance, le privilège extraordinaire de les rencontrer, et on a voulu faire partager ce privilège à nos lecteurs.
Vous écrivez d'ailleurs que toutes ces personnes que vous rencontrez et que vous nous présentez dans ce livre, eh bien, nous devons apprendre à les connaître. Sans doute, j'imagine, la raison principale de votre livre, hein, c'est le sous-titre, hein, de toute façon. Apprendre à les connaître et découvrir, en quelque sorte, qu'ils sont nos maîtres et nos frères. Alors, en quoi sont-ils alors, nos frères? On le comprend, naturellement. Mais en quoi sont-ils nos maîtres et qu'ont-ils, que nous apportent-ils? Ils sont nos maîtres, c'est qu'ils ont quelque chose à nous dire et à nous enseigner.
Ils sont nos maîtres parce que, sans préjuger de ce que vivent vos auditeurs, pour la plupart d'entre nous, notre foi n'a pas été passée au creuset de la même façon que eux, leur foi a été passée au creuset. Nous ne risquons pas notre vie quand nous rendons à la messe ce matin. La plupart d'entre nous, on n'a pas couru de grands risques, si vous voulez. Eux, ils y vont et... Quelque part, c'est dans les endroits où c'est le plus dangereux qu'ils sont le plus nombreux et qu'ils sont le plus participant et le plus brillant, très souvent. Ça, c'est l'expérience qu'on fait. Une anecdote que je raconte souvent, c'est au nord-ouest du Nigeria, dans la ville de Sokoto, qui est peut-être un des pires endroits pour être chrétien en ce moment. Il y a le responsable du séminaire de Sokoto qui nous disait faut vraiment vous nous aidiez à l'AED parce que j'ai un problème terrible de vocation. Alors nous, on dit, ah oui, le problème de vocation, on connaît, c'est embêtant. Il dit, mais j'en ai beaucoup trop. Je vais devoir refuser 3 vocations sur 4 parce que j'ai plus la place, j'ai plus les formateurs, j'ai plus rien, je peux pas. Et pourtant, dans cet endroit-là, les prêtres qui s'engagent dans cette voie-là, ils savent qu'ils vont être probablement kidnappés, probablement il y en a parmi eux qui seront exécutés. Et ils le savent parce qu'ils connaissent tous quelqu'un dans leur famille qui a été kidnappé. Ils voient tous les portraits des séminaristes qui ont été exécutés. C'est devenu tellement fréquent qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas échapper à ce destin-là. Et ils se rendent d'autant plus nombreux et d'autant plus joyeux, parce que là, j'ai des collègues qui ont pu les rencontrer. Il y a une joie extraordinaire de ces séminaristes alors qu'ils vont... aux martyrs, pour une grande partie d'entre eux.
Alors justement, puisque vous parlez de ce deuxième chapitre de votre livre qui est consacré au Nigeria, continuons, si vous voulez bien, sur le Nigeria. Vous parlez de, en effet, Sokoto. Quand vous arrivez à Sokoto, à l'aéroport de Sokoto, c'est grâce à l'évêque, d'ailleurs, du diocèse, hein, qui vous a trouvé des places dans l'avion, Monseigneur Kouka. Oui. Eh bien, à l'aéroport, affiché Sokoto, capitale du califat. Donc là, nous sommes au Nigeria.
Califat de Sokoto.
Et raconte-nous cette situation. C'est quoi ce califat qui se trouve au Nigeria, capitale du califat?
Le califat de Sokoto, c'est une entité politique qui a existé... à la fin du 19e siècle, qui a établi son emprise sur une grande partie de cette région-là, un califat très riche, très puissant, qui n'a pas duré très très longtemps, et qui a été après anéanti lors de la colonisation. Les habitants de cette région-là, pour une grande partie d'entre eux, rêvent de cette gloire passée, et ils l'idéalisent complètement. Ils oublient de dire que... La richesse de ce califat, malheureusement, reposait sur l'esclavage. Et qu'une des raisons qui a fait que ce califat a été anéanti, comme le royaume de Dahomey, comme beaucoup d'autres entités de cette époque-là, c'est que du jour où l'esclavage a été interdit par les Occidentaux, il n'avait plus de ressources. Et c'est une des raisons qui a fait qu'il a été anéanti. Mais ils ne voient pas ça. Pour eux, ça a été une période merveilleuse, brillante. Et ils s'y réfèrent continuellement. Et malheureusement, pour les chrétiens ou les adeptes des religions traditionnelles qui vivent là, il n'y a pas tellement de place. Parce que dans le roman national de l'époque, si on est au califat de Sokoto, la place des chrétiens ou des animistes à cette époque-là, c'était parmi les esclaves, c'était pas parmi les sujets du califat, si vous voulez. Donc ils sont dans une situation très compliquée. Alors ils sont très minoritaires, hein, les non-musulmans sont excessivement minoritaires, mais il y a une pression très importante, et là, c'est pas moi qui y suis allé, c'est un de mes collègues que je salue, qui s'appelle Arnaud, au passage. Il me disait, je m'attendais à être très oppressé par le terrorisme, l'insécurité, mais ce qui nous oppresse plus quand on va là-bas, c'est l'omniprésence d'un islam affiché, très conquérant, très présent absolument partout. Dans la moindre station-service, il y a une mosquée, il y a le voile évidemment pour toutes les femmes, y compris les chrétiennes, qui sortent surtout pas sans mettre un voile. Et il y a une islamisation radicale et très dure de la population, qui d'ailleurs au passage est probablement beaucoup plus radicale que celle de l'époque du califat de Sokoto. Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne pense même pas que les femmes étaient voilées sous le califat de Sokoto, ça faudrait vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas du tout une lecture littérale du Coran comme elle est prônée maintenant dans cette région-là, et que dans cette région-là, comme dans beaucoup d'autres, on voit apparaître un islam wahhabite, enfin, qui va lire strictement le Coran et l'appliquer à la lettre, ce qui n'existait pas du tout avant, parce qu'avant, il y avait une acculturation, si vous voulez. Avant, la Mecque était très loin, le Soudan, l'Égypte ou la péninsule arabique étaient très loin, et donc les imams s'arrangeaient. Et d'ailleurs, les imams locaux sont souvent les premières victimes des terroristes.
Alors, si on en vient à la conclusion de votre livre...
Déjà la conclusion.
Oui, mais il reste encore quand même quelques minutes à passer sur votre compagnie, mais votre réflexion sur le radicalisme que vous constatez justement à Sokoto et au Nigeria, à travers tous les exemples que vous donnez dans votre livre, Thomas Oswald, je rappelle le titre « Témoin de l'espérance » aux éditions Artege, vous dites que la grande menace, c'est effectivement la radicalisation de l'islam, que vous constatez dans tous les pays, mais c'est un constat, en effet, qui est fait... aussi par des musulmans d'ailleurs, je cite souvent l'exemple de ce professeur d'université pakistanais qui constatait que lorsqu'il enseignait dans son université il y a une quarantaine d'années, aucune étudiante n'était voilée quasiment, alors que maintenant elles le sont toutes. Donc cette radicalisation, elle est générale et vous en témoignez à travers ce livre et vous dites c'est le principal, c'est l'un des dangers principaux, c'est le danger principal en effet, notamment qui menace les chrétiens. À quoi attribuez-vous la cause ou les causes de ce phénomène de radicalisation que l'on constate aussi chez nous, de toute façon, en France?
C'est une question qui me dépasse un peu de ce qu'on peut dire. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, jusqu'à une période récente, l'islam était beaucoup plus acculturé. Il était beaucoup plus adapté aux régions locales. C'est très évident dans un pays comme l'Indonésie, si vous voulez, où il y avait des traditions issues de l'animisme ou des religions traditionnelles qui s'accoutumaient très bien à l'islam, et ça disparaît petit à petit. Je pense que la facilitation des moyens de communication a fait que de plus en plus d'imams ont pu prêcher, ont pu raconter leurs histoires. Et ça a été accessible de plus en plus largement. Même jusqu'au fin fond du Sahel, maintenant, les jeunes djihadistes qui ne savent pas grand-chose, souvent, malheureusement, ils ont quand même leurs vidéos avec leurs prêches islamistes, si vous voulez. Donc, les moyens de communication ont fait qu'il y a une radicalisation de l'islam. Et je pense que c'est logique, c'est que Charles de Foucault lui-même l'avait constaté de son vivant. Il espérait une conversion des peuples d'Algérie à l'époque, et il constatait que la colonisation avait plutôt radicalisé l'islam et rendu les gens plus musulmans. Parce qu'il y avait des imams qui venaient à l'époque déjà du Soudan, le message se transmettait, en fait. Et malheureusement, si on applique strictement le message du Coran, on n'arrive pas à une religion très, très ouverte, si vous voulez, aux autres pratiques.
Alors vous faites penser, pardonnez-moi, je fais un aparté, nous recevrons bientôt monsieur l'ambassadeur Driancourt qui vient de publier un livre sur l'Algérie, vérité et mensonge, et qui constate ce même phénomène, qu'il a constaté quand il était ambassadeur, ce même phénomène en Algérie. Lui, il attribue l'origine de cette radicalisation de l'islam en Algérie lorsque les dirigeants, je crois que c'était Boumeyen, cite-t-il, a voulu justement renforcer l'islam en Algérie, il a fait appel aux imams égyptiens qui ont apporté, parce qu'il manquait d'imams justement formés en Algérie, et ces imams égyptiens ont apporté justement une forme très radicale de la religion. Voilà. Un peu le même phénomène que vous décrivez finalement.
L'Égypte, c'est la terre fondatrice, enfin c'est la terre natale des frères musulmans. Oui. Et quand on regarde le profil des fondateurs des frères musulmans, c'est très étonnant. Ce sont des gens qui ont été formés en Occident, qui ont été très repoussés par ce qu'ils voyaient en Occident, des gens cultivés. Quand ils sont rentrés chez eux, Ils ont voulu revenir à un islam originel fantasmé et très pur. Et l'idée étant que tous les gouvernements occidentaux et les gouvernements de pays musulmans de l'époque étaient corrompus, ouais. Et donc il y avait une pureté islamique à laquelle on allait revenir. C'est tout à fait ce qu'on voit aussi à Sokoto. Les gens qui rêvent du retour du califat, c'est qu'ils veulent un régime pur, débarrassé de corruption, d'où le rétablissement de la charia, qui est censé établir une législation parfaite, parce que fondée sur le Coran. Alors que, dans les faits, quand on regarde quand on parle de rétablir la charia, il faut bien voir qu'il n'y a pas un corpus de texte, ni dans les hadiths, ni dans le Coran, qui permet d'établir strictement une loi. C'est juste une inspiration. Et quand on est... C'est assez difficile, au fait, à appliquer strictement. Mais ça donne des résultats très discutables, quoi. Là où elle a été appliquée, ça, on ne peut pas dire que ce soit merveilleux.
Et j'aimerais lire quelques lignes, si vous voulez bien, de ce chapitre consacré au Nigeria à Sokoto, hein, de cette visite à Sokoto, ligne tout à fait poignante qui résume bien, qui illustre bien, pardon, la situation très extrêmement difficile des chrétiens qui sont en effet persécutés. Tous ici ont en mémoire les terribles événements qui ont suivi l'affaire Déborah. Cette étudiante chrétienne avait été lapidée, puis brûlée, après avoir publié un post sur les réseaux sociaux qui fut jugé blasphématoire à l'encontre du prophète Mohammed. C'était le 12 mai 2022, après cet événement tragique, de grandes manifestations ont éclaté dans la ville, non pas à l'encontre des assassins, mais au contraire, pour réclamer que la police relâche les deux suspects qu'elle avait arrêtés. Les émeutiers s'en sont pris à des commerces tenus par des chrétiens et à des églises, convaincus qu'il fallait venger l'outrage commis par Déborah. Les chrétiens nigérians conservent ces tragiques événements en mémoire. Ils savent qu'à tout moment, la situation peut dégénérer. Et malgré ça, sur le séminaire donc, de Sokoto, que votre collègue, bien sûr, a visité, eh bien, on refuse 3 candidats sur 4. Comment expliquez-vous cela? Nous, en France, on a tant de mal à susciter des vocations.
Est-ce que vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose comme ça?
Je suis désolé, vous l'avez provoqué. C'est ce que vous racontez, Thomas Edvard, dans ce livre.
Ce sont des décisions individuelles prises par tous ces séminaristes qui ont décidé de répondre à leur vocation. C'est quelque chose de très mystérieux, de merveilleux aussi. À mon avis, ça dépasse la raison humaine. Il y a quelque chose d'autre hein, quand on en est à ce niveau-là. On dit souvent que les vocations en Afrique sont importantes parce que les personnes qui rentreraient au séminaire seraient attirées par le statut du prêtre. C'est pas forcément faux, hein, pas dans tous les cas, on pourrait discuter. Ces prêtres-là, j'ai du mal à croire qu'ils fassent ça, qu'ils prennent ce risque-là juste pour une question de statut, si vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du martyr, là, pour le coup.
Quelle aide vous leur apportez ?
Alors, l'aide à l'exemple détresse apporte toutes sortes d'aides. Hein.
Au Niger, et on parle du Niger, effectivement, Sokoto, etc.
Il peut y avoir de l'aide d'urgence, parce qu'il y a des mouvements de réfugiés qui arrivent. Il y a beaucoup d'aide à la formation des prêtres. L'an dernier, on avait 1 prêtre sur 10 dans le monde qui était boursier de l'AED. Enfin, qu'on aidait, en tout cas, à
1 sur 10
dans le monde. Donc, c'est colossal. Hein.
Ah oui, c'est absolument impressionnant.
Oui. Et on a une construction d'église à Sokoto, typiquement, mon collègue est allé voir, quand il est allé voir, c'était un simple hangar avec même pas de croix apparente à l'extérieur, parce qu'il fallait pas que ça se repère. Donc là, on va leur construire quelque chose de mieux que ça. C'est ce genre de projet, beaucoup. Hein. C'est beaucoup formation des prêtres, des religieuses, et beaucoup de construction de séminaires, construction d'églises. Et après, il peut arriver quelquefois que ce soit une construction d'école, même si ce n'est pas normalement notre œuvre centrale. On a considéré, par exemple, que le soutien aux chrétiens d'Irak faisait partie de l'évangélisation, et que par conséquent, il fallait participer à la construction d'écoles, parce que s'il n'y avait pas d'école, ils allaient partir. Les chrétiens d'Orient, ils ont cette particularité, c'est qu'ils sont prêts à rester... Presque quoi qu'il arrive, la seule chose, c'est que s'ils peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, ils partent.
Oui, ça aussi, c'est impressionnant.
Ils sont absolument incroyables.
Ils sont incroyables. Riche d'enseignement.
Ils sont d'une solidité incroyable. Ils sont là depuis 2000 ans et il faut voir dans quelles conditions ils sont là.
Alors, le fait qu'ils soient si attachés justement à la formation des enfants à l'école, et on peut faire un comparatif à ce qui se passe en France, nous dégringolons dans tous les classements internationaux. Et à la fois sur l'acquisition des connaissances, des compétences, mais aussi sur le comportement des élèves, hein, qui sont parmi les pires qui soient, en comparaison. Ce sont les enquêtes, hein, PISA qui le montrent. Et vous racontez que dans ces pays, notamment donc en Orient, les chrétiens d'Orient sont attachés à leur terre à partir du moment où il y a une école. Là, effectivement, ce sont nos maîtres, hein, en la matière. Maîtres, c'est ce que vous dites dans l'introduction. Ces témoins, ces apôtres, ce sont nos maîtres. Et là.
Et puis, pour parler du niveau scolaire, les écoles chrétiennes ont une excellente réputation partout, oui. Même dans des pays où il y a de très bonnes écoles. En Israël, il y a d'excellentes écoles, mais les écoles chrétiennes ont une réputation exceptionnelle. Et je salue Sœur Maya, dont je parle un petit peu dans le livre, qui a maintenu son école qui est au Liban, à 18 km de la frontière israélienne. Oui. Et qui était une école de réputation internationale. Mmh. Elle envoyait régulièrement des élèves partés boursiers à New York. Et chaque année, il y avait dans les 10 premiers francophones du Liban, il y avait au moins 2 ou 3 élèves de son école. Alors que c'est une école de 1000 élèves, hein, c'est tout petit. Et il faut voir dans quelles conditions, en plus, elle élevait ces élèves-là.
Thomas Val, permettez-moi de revenir, si vous le voulez bien, sur le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est quand même l'actualité. Alors, bien que vous le décrivez parfaitement dans ce chapitre, et la situation extrêmement difficile de ces chrétiens, hein, qui sont régulièrement tués, assassinés parce qu'ils sont chrétiens. On entend dire souvent, parmi les commentateurs, les experts, les spécialistes, que non, au Nigeria, le conflit, ce n'est pas du tout un conflit religieux. Certes, il y a des chrétiens qui sont tués, mais il y a tout autant, si ce n'est plus encore, de musulmans qui sont assassinés. Et donc, on n'est pas du tout dans un conflit religieux. On ne peut pas parler de martyrs des chrétiens, mais on est dans un conflit de type ethnique. J'aimerais vous interroger sur ce que vous pensez, ce que pense l'AED sur cette question, qui est une question importante, parce que c'est vraiment le langage médiatique, c'est ce qu'on entend.
L'AED n'a pas de parole à dire là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que c'est une simplification outrancière des faits. Je pense qu'il y aurait deux erreurs. Il y aurait une erreur de dire que tout est religieux, parce qu'évidemment c'est faux, et de dire que tout est ethnique ou tout est politique. Hein, ce serait faux aussi. D'abord, l'erreur de séparer l'ethnie et la religion, bon, ça c'est vraiment un réflexe occidental qui marche dans assez peu de pays finalement. Il y a un facteur religieux qui saute aux yeux, quoi. C'est absolument évident. Je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères de l'Irlande qui avait dit ça, qui avait dit, écoutez, c'est très triste ce qui arrive, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Et là, les évêques, ils s'étaient un peu fâchés, là, quand même. Hein. Et on avait envie de leur dire, écoutez, on va vous inviter, venez chez nous, venez au Nigeria. Vous allez rencontrer ces femmes à qui on a exécuté leur mari, quelquefois leur fils devant leurs yeux, et à qui les hommes ont dit, si, quand on revient, vous serez musulmane, parce que sinon, on vous tuera vous aussi. Vous allez venir leur parler à ces femmes-là, et vous allez leur dire que c'est pas un conflit religieux, si vous voulez.
Oui.
Vous allez dire à tous ces fous furieux qui hurlent à l'Akbar et qui imposent la conversion et la mort que, en fait, non, vous vous trompez, vous n'êtes pas religieux. C'est tellement évident, si vous voulez, qu'il y a un facteur religieux faut être soit de mauvaise foi, soit mal informé pour pas le voir. Après, ça veut pas dire que c'est le facteur déclencheur, c'est pas forcément ça qui a déclenché l'hostilité, si vous voulez, et ça veut pas dire que c'est pas inscrit dans une histoire longue, hein, attention, mais il y a évidemment un facteur religieux. Et au-delà, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple du Nigeria, au-delà des terroristes, des fous furieux qui débarquent avec leur Kalachnikov, il y a une oppression d'une société en voie d'islamisation qui est très inquiétante pour la partie de la population qui ne veut pas de ce modèle de société. Là, c'est pas forcément des gens qui vont exécuter, qui vont terroriser, mais quand on est dans cette société-là, c'est très inquiétant. Là, quand il y était, mon collègue, les écoles avaient toutes été fermées à cause du Ramadan, y compris les écoles chrétiennes. Et il les avait fait ça dans une province là, et c'était, tous les gens disaient, c'est un test. La fois d'après, ils vont fermer les autres écoles pendant le Ramadan. C'est pas très agréable de vivre dans une société comme ça.
Quelles sont les autres formes, justement, d'oppression des chrétiens? Est-ce qu'on la voit uniquement au Nigeria, dans les provinces où les musulmans dominent, ou est-ce
non,
que c'est général...
Justement, là, c'est pour répondre à la fois à cette question-là et renfoncer le clou sur la précédente, il y a des États qui sont à 95% chrétiens, comme l'État du Bénin, où il y a des attaques islamistes. Donc j'ai du mal à voir que, si vous voulez, ce soit des conflits de bergers contre sédentaires. C'est, encore une fois, ça existe. Ça fait évidemment partie du problème. C'est pas forcément, ça exclut pas le facteur religieux, quoi, si vous voulez. Donc non, c'est le problème. Malheureusement, il existe, quoi.
Thomas Val, nous allons faire une petite pause. Nous écoutons un message de la radio suivi d'une pause musicale que vous avez choisie. Il s'agit du Notre Père chanté en araméen par Eva Maria Vargas, qui est une indienne orthodoxe Malankare. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une indienne orthodoxe Malankare? Qu'est-ce donc? Qui est-elle? Et puis, pourquoi avez-vous choisi cette pause musicale?
Alors, les Malankare, ce sont ces chrétiens des premiers temps, qui étaient déjà chrétiens quand les Portugais sont arrivés en Inde. Il y avait déjà des chrétiens, les Malabars et les Malankare. Et ils sont les héritiers d'une église que je trouve passionnante, dont je pourrais parler longtemps, il faut que je fasse attention, qu'on appelle l'église nestorienne très à tort, parce que la plupart d'entre eux ne savaient même pas qui était Nestorius, qui serait plus juste appelée l'église de Perse, hein, dont la tête était à Séleucie Ctésiphon. Et cette église-là a essaimé jusqu'en Indonésie, jusqu'en Chine. Et au XIIIe siècle, il y avait plus de chrétiens de cette église-là que de chrétiens catholiques latins, si vous voulez. Donc c'est une église dont on n'imagine pas l'ampleur. Et il n'en reste presque plus rien, mais il en reste quand même. Et donc il reste les Malabars, les Malankare qui en sont les héritiers. Et il reste nos chers chaldéens, dont on parle souvent, dont la langue courante est le sourète, qui est une forme contemporaine d'araméen. La langue de Jésus, je pense que vos auditeurs ont reconnu.
Et donc nous allons écouter donc ce Notre Père après le message de la radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission en direct donc Thomas Oswald, qui est journaliste au service information de l'aide église à l'église en détresse et qui copublie avec Benoît de Blanpré, qui est le directeur de l'AED France, parce qu'il nous a expliqué que l'AED, ce n'est pas qu'en France, c'est ce temps. tous les pays d'Europe, il y a des bureaux de l'AED, même au Mexique, c'est une organisation internationale.
Même en Colombie, on est présent dans beaucoup de pays, oui.
Voilà, et qui intervient auprès des chrétiens persécutés. Et malheureusement, Thomas Wald nous explique qu'il y a beaucoup de chrétiens persécutés dans le monde, il y en a de plus en plus. Il a évoqué un certain nombre d'exemples, tel qu'il le fait dans ce livre, qui est très intéressant. C'est aussi un livre d'actualité, parce que ça nous montre la situation des chrétiens, et à l'exemple de ce que Thomas Oswald vient de nous raconter sur la situation au Nigeria, où les chrétiens sont vraiment persécutés, martyrisés, assassinés, parce qu'ils sont avant tout chrétiens. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Mais nous ne sommes pas uniquement dans un conflit ethnique, nous sommes dans un conflit de religion. Et ce qu'il constate, c'est qu'effectivement, l'islam se radicalise au Nigeria, comme malheureusement dans beaucoup d'autres pays, et que ce sont les chrétiens qui font partie des principales victimes. Alors ce livre, c'est Témoin de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps, qu'il publie aux éditions Arte. Et je précise que tous les bénéfices de ce livre... vont à l'AED.
Oui.
Donc acheter ce livre, c'est faire une œuvre généreuse.
Tout à fait.
Il ne faut surtout pas éditer. C'est un éditeur de Radio Courtoisie. Acheter ce livre.
Comme voilà. Tous les produits de la boutique de l'aide d'Alexandre XIII, qu'on fait des baklavas syriens, on fait des échiquiers, on fait plein de petits objets comme ça.
Oui.
Les bénéfices reviennent à l'aide d'Alexandre XIII, oui.
Bon. Alors nous avons le message d'un auditeur que je vous lis, Thomas Wald. Que l'Église soit en détresse dans beaucoup de pays, c'est un fait incontestable et déplorable, mais au risque d'être iconoclaste, j'ai peur que parfois elle se mette toute seule dans la détresse elle-même en plaidant pour l'accueil inconditionnel de peuples hostiles au christianisme. Et donc, il ne faut plus s'étonner si des prêtres sont malmenés en France ou ailleurs, si des églises sont profanées, incendiées, etc. On voit des policiers devant les églises de nos jours chez nous, quand l'église savait manier le sabre et le goupillon, elle était alors triomphante. Mais il est vrai que le message du Christ était interprété autrement.
Dans les pays dans lesquels on parle, c'est pas les mêmes problématiques, si vous voulez.
Oui.
Quand on parle du Nigeria, les gens essaient plutôt de sortir du Nigeria plutôt que de faire entrer des populations. C'est pas tellement un pays d'entrée de population. Donc, je pense que le sujet est un peu à côté des sujets auxquels je suis confronté.
Oui, c'est l'inverse en fait. Hein.
Oui, c'est l'inverse.
Il y a quand même un point commun, c'est la radicalisation de l'islam, que nous aussi.
Oui, ça c'est vrai que c'est un phénomène absolument mondial.
Voilà, qu'on vit en France. Hein.
Oui, oui.
Alors, bien sûr, de manière qui n'est pas aussi violente que celle affreuse hein, que vous décrivez, bien sûr, dans les différents pays. Où vous êtes allé.
C'est une radicalisation qui est un peu un réflexe de défense, j'allais dire désespéré, dans beaucoup de pays. Hein. Typiquement en Iran, les mosquées sont vides.
Ils ont
et en Turquie aussi. Donc il y a une crise de l'islam, au fait. Et la radicalisation en est un des signes. Je connaissais un converti kabyle, dont je ne vais surtout pas vous dire le nom, qui me disait, en Kabylie, il y a énormément de conversions au christianisme. Mais il y a aussi des conversions à l'islam radical. Et c'est quelquefois dans la même famille qu'on a un chrétien et un musulman radical, en réaction à une modernité, à quelque chose à un éclatement de la société, à tout ce qui arrive. Hein. Il faut se représenter que ces pays-là reçoivent le sécularisme que nous, on a reçu en 150 ans. En 30 ans de temps, ils le reçoivent. Donc c'est des chocs absolument terribles. Et ces chocs-là provoquent effectivement des réactions comme ça.
Je vous propose d'évoquer, si vous voulez bien, un pays où vous êtes donc allé au titre donc de l'AED, de l'aide à l'Église en détresse, c'est le chapitre 6, c'est le Congo.
Oui.
Et ce chapitre est intitulé « L'Église, hôpital de campagne, les pépites de Wolframite au Congo ». C'est un chapitre aussi extrêmement impressionnant où vous relatez votre visite à Bukavu. Donc je vous propose de nous raconter ce que vous avez vu, de témoigner effectivement de l'œuvre des chrétiens, de ce qu'ils vivent et aussi naturellement de la manière dont l'AED intervient là-bas.
Alors, la République démocratique du Congo, et plus spécifiquement l'Est, la région du Kivu, c'est une région qui connaît l'équivalent de notre Première Guerre mondiale, mais depuis 25 ans, si vous voulez. On considère qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont mortes depuis même plus que 30 ans, je veux dire. Hein. Ça a commencé en 1995, il faut que je me remette à jour. Ça a commencé en 1995, après les génocides rwandais. Il y a eu une série de guerres civiles là-bas, et ça ne s'est malheureusement jamais fini. À l'heure où on parle, la région du Kivu où j'étais il y a 2 ans de ça, maintenant elle est sous domination du mouvement M23 et on ne peut plus s'y rendre.
Rwandais, d'obédience rwandaise.
D'obédience rwandaise, exactement.
Ouais. Tutsi donc.
Alors, il y a des Hutus et des Tutsis ensemble en plus maintenant.
Ah bon, c'est bien compliqué alors. Ah,
c'est une région complexe.
Oui.
C'est une région complexe. Mais il y a des groupes armés au fait qui disposent de cette région-là. Et l'État est complètement absent. L'armée congolaise est dépassée. L'administration est complètement dépassée. Et l'Église est pratiquement la seule entité qui tienne à peu près debout et qui fait ce qu'elle peut faire. Elle gère aussi bien des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. Moi, quand j'y étais, le père Floribert Bachimbe, que je salue, avec qui je suis souvent en contact, c'est le vicaire général de Bukavu. C'est un petit homme qui a une énergie incroyable. Il doit avoir 60 et quelques années, mais il dort pas beaucoup et il bouge beaucoup. Et il parle d'un ton égal aux enfants des rues et aux ministres. Alors ça, c'est incroyable. Il connaît tout le monde et il va parler sur le même ton à un ministre et à un enfant de rue qu'on va croiser sur la route. Et quand j'étais là-bas, il était en train de mettre en place une mutuelle de santé. Alors, on n'imagine pas un vicaire faire ça, mais c'est qu'en fait, ils n'en avaient pas. Et au Congo, si on a une jambe cassée ou un truc bête hein, qui peut se réparer, qui ne demande même pas un budget extraordinaire, et il faut payer. Et si tu ne payes pas, bah, tu n'es pas soigné. Donc, la plupart du temps, il y a les liens familiaux qui sont forts, mais il y a des gens qui se retrouvent isolés, comme partout. Et les gens qui se retrouvent isolés, bah, on va les laisser mourir au bord de la route. Donc, il avait mis en place une mutuelle de santé pour que les gens qui aient une maladie réparable facilement avec les moyens du bord puissent avoir l'argent d'être soigné dans de bonnes conditions et pas se ruiner pour une opération. Je me suis rendu dans la prison, la prison centrale de Bukavu. L'aumônier, s'il n'était pas là, il y a la moitié des prisonniers qui seraient déjà morts de faim.
Oui, c'est le père Adrien dont vous témoignez, qui est le vrai chef de cette prison.
C'est ça.
Et comment intervient-il justement?
Alors maintenant, il n'intervient plus du tout parce que sa prison a été ouverte par le M23. Tous les prisonniers étaient balancés dans la nature.
Donc maintenant, il
a été renvoyé à sa mission d'avant, c'est-à-dire auprès des pygmées. Il est passionné par cette population-là. Et il est parmi les pygmées du Nil, du lac Kivu. Une population très très pauvre, mais avec laquelle il a un très bon contact apparemment. Donc il m'envoyait des photos, il partait avec son sac de sel pour aller rendre visite aux pygmées qui lui ont fait la fête parce qu'il ne l'avait pas vu depuis 20 ans. Mais à l'époque où je m'étais rendu là-bas, eh ben, il gérait la prison avec les moyens du bord. Ils étaient en train d'essayer d'organiser une salle de chirurgie. Alors, c'est une chirurgie, j'aurais pas aimé être opéré dedans, mais une salle avec une lumière électrique déjà, parce que c'était pas donné partout, avec un lit d'hôpital qu'on leur avait donné, avec des petits quelques médicaments qu'ils recevaient à gauche et à droite. Mais dans cette prison qui était à l'origine une prison pour 500 personnes, il y avait plus de 2000 personnes qui étaient là-dedans, et il y avait absolument rien. Il m'a montré, il y a une photo dans le livre, on le voit avec un gobelet qui fait la taille d'un petit cup, quoi. Et ça, c'était la ration journalière de maïs pour des prisonniers qui sont des hommes pour la plupart de 30 ans qui ont besoin de manger, quoi. S'ils mangent que ça par jour, ils vont tomber d'inanition. Et de fait, il y en a certains, on avait l'impression qu'ils sortaient d'un camp de concentration. Ils avaient les côtes complètement découvertes. Ils étaient dans un état absolument lamentable. Pour peu qu'on ait une petite maladie, quelque chose là-dedans, ça devient très vite fatal. Donc l'Église est vraiment le pilier qui empêche cette société de complètement s'effondrer. Elle est pourtant vraiment pas loin de complètement s'effondrer. Les religieuses aussi, religieuses qui tiennent
les filles de la résurrection. Vous témoignez dans votre chapitre, hein, Thomas Oswald.
Et oui,
l'œuvre extraordinaire des filles de la résurrection. Qui sont ces filles de la résurrection? Vous dites qu'elles sont présentes partout au Congo.
Oui. Et puis maintenant, elles sont essaimées en plus dans d'autres pays. Oh, elles sont hyper actives. On en trouve un peu sur tous les métiers. Ce ne sont pas des sœurs cloîtrées, ce sont des sœurs qui agissent un peu comme les filles de la charité, si vous voulez. Et nous, on a une relation particulière avec elles parce qu'elles ont beaucoup de dévotion, pas encore, mais elles ont beaucoup elles prient beaucoup en union avec le père Werenfried aussi, qui s'était beaucoup rendu auprès d'elles, qui avait participé à la fondation d'une partie des couvents. Donc on avait une relation privilégiée avec ces filles-là. Et elles partent, elles ont une grande partie de leur mode de vie qui consiste à les cultiver dans les champs. Alors c'est très bien pour la vie spirituelle, à les cultiver dans les champs. Mais là, en plus, c'est vital parce qu'au fait, si elles n'avaient pas ça, elles ne pourraient pas manger, quoi, clairement. Et alors, elles partent avec leur bêche sur l'épaule. Elles ont des champs très grands, d'ailleurs, où elles cultivent. Elles font travailler aussi des personnes qui viennent des alentours et qui sont très pauvres. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on avait au Moyen-Âge chez nous, où les monastères étaient le pôle économique autour duquel se construisait la société. Hein. Si elles n'étaient pas là, et si elles ne géraient pas cette région-là, il y a beaucoup de gens qui crèveraient complètement de faim et de misère dans ces régions-là. Beaucoup de paysans sans terre, et beaucoup de paysans qui ont dû partir sur les routes parce que des groupes armés sont venus chez eux et ont tout détruit. Quand j'étais là-bas, il y avait aussi l'église qui était en train de constituer un syndicat. Donc, c'était pas Solidarnosc, c'était un syndicat de mineurs qui minent, hein, qui minent de la wolframite ou du cobalt, du coltan, pour qu'ils arrêtent de se faire plumer par les racheteurs qui leur rachetaient leurs minéraux pour une bouchée de pain, alors que c'est des minéraux stratégiques dont on a tous des pièces dans les téléphones qu'on a dans les poches, des objets, enfin une matière qui est absolument indispensable pour notre mode de vie contemporain, mais qu'eux, ils vendent une misère parce qu'ils ne savent pas ce que ça vaut.
Quand vous dites que l'Église organise un syndicat, comment procède-t-elle? C'est un prêtre local qui est parce qu'il est...
C'est un prêtre local qui donne l'impulsion, qui leur dit vous rendez-vous compte qu'au fait, là, ce que vous minez, ça vaut de l'argent. Réunissez-vous tous. Et ce qu'on va faire, c'est que l'argent que vous allez... Enfin, la pierre, on va la prendre et nous, on va vous donner l'argent. Et après, quand il y aura toute la pierre qui sera en commun, on fera un paquet commun qu'on va vendre à un acheteur. Et comme ça, l'acheteur, il ne pourra pas venir vous voir l'un après l'autre et racheter moins cher à celui d'à côté. Vous allez vous organiser, au fait. Et à partir du moment où vous êtes organisé, vous êtes beaucoup plus fort. Et faire comprendre ça aux personnes là-bas, c'est absolument indispensable pour qu'ils arrêtent de crever de faim. Là, ils ne parlaient pas de construire une église, ils ne parlaient pas de construire une école, parce que c'est complètement hors de portée, mais c'est déjà juste de faire ça, ça va leur permettre d'être assurés d'avoir un repas le lendemain.
Et ces prêtres ne se mettent pas en danger en faisant ainsi?
Ah oui, si, ils se mettent en danger, si, ça c'est certain. Dans cette région-là, malheureusement, tout le monde est en danger. Ils sont très fatalistes d'ailleurs.
Ah oui.
Quand on va quelque part, c'est bon, on va y aller. Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais tout est dangereux de toute façon.
Quand vous étiez sur place, vous avez ressenti ce danger?
C'est surtout très difficile à comprendre. En particulier, moi, j'ai atterri à Goma, donc tout au nord du lac Kivu. Mm-hmm. Et quand j'arrive là, ils me disent non, on ne peut pas prendre la route pour aller à Bukavu. Il n'y a que le bateau qui marche. Parce que c'est la route à ce moment-là. On risque d'avoir des barrages, des gens qui vont vous demander soit de l'argent, soit qui vont vous enlever. Et on ne sait jamais à qui on a affaire. Et comme l'armée régulière est aussi dépenaillée, voire quelquefois plus que les milices armées, on ne sait jamais si en face c'est un Rwandais, c'est un groupe armé quelconque, si c'est quelquefois un État islamique, parce que maintenant on a même les ADF qui sont des Ougandais qui ont prêté allégeance à l'État islamique qui sévissent aussi dans ces régions-là. Donc il y a une kyrielle de petits groupes armés qui se taillent des fiefs dans lesquels il y a des mines et qui gagnent de l'argent grâce à ça. Et il y a une multitude d'acteurs locaux qui par la seule vertu de leur armement, prennent le pouvoir sur ces régions-là. Donc c'est très difficile à suivre pour nous. Notre grande chance, nous, c'est qu'on est avec l'Église, et l'Église est relativement respectée par toutes les parties. Relativement. ça reste dangereux, si vous voulez. Mais
pour quelle raison?
Parce que justement, ils ont pratiquement tous un enfant qui est dans une école catholique ou quelqu'un qui est à l'hôpital catholique. Donc il y a quand même pour la plupart, évidemment, c'est pas une science exacte, mais les prêtres peuvent aller presque partout. Et ça se vérifie dans beaucoup de pays, heureusement.
Oui, vous écrivez dans ce chapitre consacré au Congo, il se passe au Congo des événements d'une cruauté qui dépasse l'entendement.
Oui. Oui.
On l'ignore, ça, on en parle très peu.
Et pour cause. Enfin, c'est terrifiant parce que les groupes, ces milices armées, ils vont chasser, à des moments donnés, pour des raisons stratégiques, ils vont dire on va chasser une population de tel endroit. Mais cette population-là, c'est tout ce qu'elle a, cette terre-là. Si elle part, elle va crever de faim. Donc elles ne vont pas partir.
Elles veulent les chasser pour récupérer
s'installer, creuser, envoyer leurs propres travailleurs. Et ces gens-là qui n'ont presque rien, qui veulent s'accrocher à tout prix, pour les chasser de là, on va leur faire les pires horreurs imaginables. Et des horreurs, ils en ont déjà vécu. Donc il y a comme ça une gradation. Et puis il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, c'est que dans ces situations-là, il y a vraiment le diable qui est à l'œuvre quelquefois. Moi, le père Floribert Bachimbé, il m'a emmené partout. Il m'a emmené au fond des vignes de wolframite. J'ai été dans la prison centrale de Bukavu, donc dans des endroits assez terribles. Quand il y a des femmes qui ont témoigné qui avaient un témoignage à faire parce qu'elles avaient été attaquées par des miliciens, il m'a dit non, là tu viens pas. Là, parce que ce qu'elles vont raconter,
c'est trop.
C'est trop. Donc là, tu viens pas. Et quand il est revenu, il pleurait. Il m'a dit, je les ai entendus mille fois, mais on ne peut pas ne pas pleurer quand elle raconte ce qu'elle vit dans ces moments-là.
Comment intervenez-vous sur place, l'AED, justement, au Congo?
Au Congo, alors dans la région spécifique du Kivu, on va soutenir justement l'essor de la résurrection, on va soutenir évidemment le père Floribert Bachimbé, c'est un partenaire de l'AED depuis plus de 10 ou 20 ans, ça fait vraiment longtemps qu'on est avec lui. Ça nous arrivait de lui donner de l'aide d'urgence, comme je vous le disais. En revanche, on a souvent des problèmes justement pour faire parvenir l'aide. C'est souvent très long et très compliqué. Il y a toute une période pendant laquelle les banques étaient fermées, donc on ne pouvait même pas faire parvenir d'argent. Et on est obligé souvent d'utiliser des moyens détournés parce que même avec les banques, quelquefois, on a des problèmes dans ces régions-là. Donc on est souvent, on passe par le Rwanda. Et quand la frontière est ouverte, on va apporter notre aide. Ça peut être de l'aide matérielle. Souvent, c'est de l'argent. C'est quand même le plus simple.
Thomas Wald, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur le Congo.
Sur le Congo, il faut que je vous dise encore que la semaine dernière, j'étais en contact avec un des prêtres que le père Floribert m'a fait rencontrer, qui est en Ituri. C'est le père Dieudonné Jeanlé, qui est dans le village de Manguabo. Je ne pense pas que je le prononce bien. Mon Swahili n'est pas correct. Et c'est l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Et je lui ai demandé s'il voulait partir. Il m'a dit, ben non, je ne peux pas partir. Ils ont besoin de moi. Si je pars, c'est que je serai le dernier à partir. Il disait ça avec un naturel absolument désarmant. Donc évidemment, on prie pour lui. J'espère qu'il fait quand même attention à lui et qu'il sera protégé.
Mais les organisations internationales interviennent-elles dans ce pays? On pense à la Croix-Rouge,
bien
par
sûr,
exemple.
Bien sûr. Oui. Alors, pour Ebola, il y a quand même un effet médiatique qui fait qu'il y a énormément d'associations, Médecins Sans Frontières en particulier, qui sont sur place. Mais l'Église a un rôle à jouer important parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent dans cette région-là. Et ils disent que dans les hôpitaux, on vole les organes, ou il y a beaucoup de personnes qui vont à l'hôpital qui meurent, de fait, hein, parce que l'Ebola est très, très meurtrier. Et donc, ils disent, non, regardez, ils l'ont tué à l'hôpital. Donc, où ils vont continuer à faire les rituels pour enterrer les personnes en lavant le corps. Or, c'est comme ça qu'on transmet la maladie. Toutes ces choses-là, l'Église a la crédibilité nécessaire pour dire auprès des gens, non,
allez
à l'hôpital, non, ne touchez plus les morts. On va faire une cérémonie, on va faire tout ça, mais il ne faut pas le toucher, c'est beaucoup trop dangereux. C'est comme ça qu'on attrape la maladie. Lavez-vous les mains, c'est un geste tout simple. Ebola ne se transmet pas par l'air, mais par contact, par les fluides. Donc il y a des messages simplement de bon sens qui peuvent être transmis par l'Église et pour lesquels elle va être crédible beaucoup plus qu'une autre institution, que des gens de Médecins Sans Frontières qui sont merveilleux, hein, je dis pas le contraire, mais qui arrivent en tenue de cosmonaute, et je comprends, je ferais exactement pareil à leur place, hein, attention, mais qui paraissent lointains et qui peuvent faire peur aux personnes sur place.
L'épidémie est sous contrôle, on n'en entend plus parler.
Non, pas du tout. Pas du tout, et les chiffres officiels sont très en dessous de la réalité. Lui, il me disait que pour la seule journée de vendredi dernier, il y avait eu 30 morts, et il est dans une ville de 30 000 habitants, donc c'est considérable, 30 morts pour une seule journée.
Juste une journée.
C'est considérable. Donc l'épidémie n'est pas sous contrôle, et malheureusement, elle se répand beaucoup.
Mais on arrive à sauver des gens atteints et
il y a des cas de rémission, donc ça c'est encourageant. Le pays est sous quarantaine. Il y a quand même une réaction internationale qui est importante, hein, si vous voulez. Mais la situation de pauvreté, la difficulté d'accès au transport et la situation de politique de la région ça ne facilite pas les choses, évidemment.
Thomas Wald, je rappelle que nous avons le plaisir de vous recevoir pour votre livre co-écrit avec Benoît de Blanpré, qui est le directeur de l'AED et l'aide à l'Église en détresse, témoin de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps aux éditions Arthège. Vous évoquez bien sûr ces apôtres de notre temps qui sont des véritables témoins, des maîtres en quelque sorte pour nous, parce qu'ils vivent par cette foi extraordinaire dont ils font preuve. Vous avez évoqué au début de notre entretien, ce séminaire au Nigeria, dans la ville de Sokoto, qui refuse trois candidats sur quatre.
Il craignait d'en refuser trois sur quatre. J'espère qu'on va réussir à ce qu'il y en ait. Alors c'est normal d'en refuser quelques-uns, mais trois sur quatre, ça me paraît excessif.
Et donc, vous venez d'évoquer la situation au Congo, et l'œuvre magnifique de l'Église dans ce pays où il se passe des choses absolument affreuses. Il ne nous reste malheureusement qu'un tout petit quart d'heure à passer en votre compagnie, mais je renvoie bien sûr les auditeurs de Radio Courtoisie à sa lecture. Ils auront prendre connaissance avec des témoignages vraiment saisissants.
Je vous propose, si vous voulez bien, que nous évoquions la situation et l'aide que vous apportez, bien sûr, en Indonésie, parce que c'est assez méconnu, là encore, ce qui se passe en Indonésie, et peut-être aussi un mot sur la Chine en évoquant des témoignages très concrets, ce que vivent les chrétiens, et notamment des prêtres en Chine.
C'est un très beau programme, mais on va avoir que 15 minutes.
Oui, à peine, même 11 minutes, j'ai un peu exagéré.
Aïe.
Simplement, donc, mais on peut parler que de l'Indonésie, par exemple, si
non,
vous préférez.
On va essayer quand même, c'est important de dire ce qui se passe en Chine aussi. Non, l'Indonésie, c'est pratiquement un continent, c'est très grand, il y a une réalité très diverse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Indonésie est un pays où une petite partie de l'archipel, Java, concentre la moitié de la population et tous les présidents et tous les dirigeants, si vous voulez. Et du coup, il y a un rapport très distant et parfois prédateur avec les autres parties de l'archipel. Ça se ressent à Bornéo, où les évêques d'ailleurs se sont plaints de la gestion du terrain par les autorités. Il y a eu des intempéries terribles qui ont fait des coulées de boue terribles parce que le gouvernement central avait organisé des plantations d'huile de palme un peu sauvages partout et du coup la biodiversité était détruite. Il y a cette réalité-là et les évêques peuvent se montrer assez courageux quelquefois pour dénoncer cela. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont peut-être encore plus douloureuses et pour lesquelles les évêques vont être un peu plus distants parce que c'est trop loin de chez eux. C'est en particulier la Papouasie, occidentale. Donc c'est l'extrême est du pays. C'est vraiment très loin. Pour vous représenter, de la partie occidentale de l'Indonésie à la partie orientale de l'Indonésie, il y a autant de distance qu'entre Paris et Kaboul en Afghanistan. Donc c'est vraiment très grand, beaucoup plus qu'on l'imagine sur nos planisphères. Et il y a beaucoup de distances aussi culturelles. Les Papous qui vivent dans ces régions-là, ils sont beaucoup plus différents que l'est un Norvégien d'un Maghrébin. Beaucoup plus de culture, de couleur, de forme, de tout. Donc il y a vraiment une distance gigantesque. Dans cette région de Papouasie occidentale, les chrétiens, la population papou chrétienne, qui sont 99% chrétiens...
Ils sont des catholiques, vous les décrivez comme des fervents catholiques.
Catholiques ou protestants? Il y a des protestants.
Les deux.
Il y a les deux. Mais très fervents. Et puis avec la foi des nouveaux convertis, avec des difficultés à avoir des prêtres encore, parce que là, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les nouvelles missions. Il y a la pesanteur de la famille. Alors, la famille, c'est très bien les familles, mais les individus ne s'appartiennent pas eux-mêmes hein, quand c'est une population avec un poids aussi important de la famille. Donc avoir une vocation qui nous sort de la vocation d'homme marié ou de femme mariée, c'est très difficile à admettre, même chez des gens très très chrétiens. Ça, il faut passer une étape pour arriver à ça. Et on l'a vu typiquement en Asie du Sud-Est, première vocation sacerdotale, ça a mis du temps à s'installer. Et chez eux, encore plus, parce qu'ils sont très justement attachés à la famille. Mais malgré ça, ils sont très très chrétiens et très attachés à leur foi chrétienne. Et ils voient une population étrangère, musulmane, qui envahit leur territoire et une administration qui, petit à petit, grignote, les exproprie de tous les territoires les plus intéressants pour des mines, pour installer de l'huile de palme, de la canne à sucre. Et ils n'ont pas le droit au chapitre, ils sont complètement dépossédés de leurs terres. Malheureusement, s'il n'y avait pas effectivement des prêtres, deux évêques maintenant papous locaux pour dénoncer ça, ce serait très peu su, alors que c'est... on parle beaucoup de crimes de la colonisation. Là, c'est un crime de la colonisation qui est en train de se jouer sous nos yeux. Ça ressemble tout à fait à ce qui se passait au Timor oriental jusqu'à la fin du XXe siècle.
C'est ce que vous écrivez dans ce chapitre.
Tout à fait. Et c'est comparable sur bien des points, parce qu'en plus, ils sont assez proches ethniquement du Timor oriental, des Timoriens orientaux. Et on a le même rapport de prédation d'un État lointain à une population qui est considérée comme inférieure parce qu'ils sont, plus noirs et ils sont plus chrétiens. Donc ça fait deux raisons de les mépriser pour les musulmans de Java, si vous voulez, et pour l'administration qui se prête à toutes sortes de choses. J'ai même entendu qu'il y a des groupes terroristes qui agissent en Papouasie occidentale. Or, je n'imagine pas qu'ils agissent là de leur propre chef, et je soupçonne très fortement, comme beaucoup de gens là-bas, l'administration de Java de s'en accommoder très bien.
Comment les aidez-vous? Comment les aidez-vous, l'AED, c'est catholique, c'est chrétien papou.
Alors je vais vous dire, on aide les chrétiens d'Indonésie, au sens large. On aide les chrétiens de Flores. Flores, c'est une île catholique où il y a le plus grand séminaire au monde. On va aider ces gens-là. les Papous de Papouasie occidentale, on ne peut rien faire. Parce que le gouvernement indonésien bloque tout. Il y a des ponts d'or qui sont faits aux imams qui veulent construire des mosquées. En revanche, pour construire une église, c'est impossible de donner de l'argent. Là, c'est typiquement une des régions dans lesquelles je suis heureusement que je fais partie d'un service information uniquement, parce que je peux faire le travail d'information que je fais là. Mais en tant qu'association, on ne peut rien faire parce que le gouvernement ne nous laissera rien faire. Les aides qui arriveraient dans ces régions-là sont systématiquement...
Donc vous faites connaître, hein, vous partagez, vous faites connaître, vous faire, informer.
Peut-être que ça changera, ça peut changer. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gouvernements ont essayé de bloquer les aides, ou les ont effectivement bloquées, comme au Nicaragua, en Inde. C'est un ressort classique des gouvernements, en Érythrée aussi. Là, pour cette région-là, ils y arrivent. Pour le reste de l'Indonésie, l'Église est présente, elle a plutôt de bonnes relations avec l'administration, il y a vraiment un hiatus.
Il nous reste malheureusement que 5 minutes pour évoquer la Chine avant un message d'un auditeur qui vous demande le père Adrien que vous évoquiez tout à l'heure, c'était le Bukavu.
Hein. Oui, tout à fait.
Est-il africain ou européen? Et puis notre auditeur conclut, je ne sais pas si Dieu existe, hein, mais pour les saints, j'en suis sûr. Il vous remercie pour vos propos.
Oui, il est africain. Hein. C'est une église qui est largement africaine, hein, l'église de l'Est de la République démocratique du Congo. Et même, c'est même une église qui est missionnaire. Moi, c'est amusant, j'ai rencontré deux missionnaires comme ça, qui étaient très loin de chez eux. Il y en a un qui est aux Philippines, donc un missionnaire congolais aux Philippines, ça c'est pas banal. Il y en a même un qui est en Mongolie. Alors, me demandez pas comment il a pu aboutir jusque là-bas.
Oui.
Mais il a abouti jusqu'en Mongolie. Donc c'est une église qui est maintenant missionnaire. Il y a quand même des missionnaires européens qui sont là. Je trouve ça très fécond, justement, d'avoir ces échanges-là. Mais il y a maintenant beaucoup de missionnaires africains qui se rendent partout dans le monde, partout où on a besoin d'eux.
Thomas Oswald, un peu, parce qu'il ne reste 4 minutes avec vous. Effectivement, évoquer, c'est tout un chapitre qui est très intéressant, qui est aussi très prenant, très émouvant, qui fait jaillir un certain nombre de questions. D'ailleurs, vous évoquez l'Église patriotique et l'Église clandestine de Chine, notamment à travers ce que vit un prêtre qui était de l'Église clandestine, et suite d'ailleurs aux accords diplomatiques, hein, entre le Vatican et le gouvernement chinois, a décidé de se faire enregistrer dans l'Église officielle. C'est vraiment poignant. Je vous laisse évoquer cela et nous terminerons là-dessus, si vous le voulez bien.
C'est-à-dire que c'est une décision qui est très très contrainte, hein, quand même. Hein. Il avait régulièrement des fonctionnaires chinois qui tapaient à sa porte pour lui dire de s'enregistrer. Et il faut préciser que les prêtres clandestins ne sont clandestins qu'en tant qu'ils ne s'enregistrent pas, mais le Parti communiste chinois sait tout, absolument tout. Et donc ça ne leur échappe pas. Hein. Ils savent parfaitement qui est qui. Lui, il a une pression terrible. Hein. Il a découvert que ses parents ne pouvaient plus prendre le train, que sa sœur avait perdu son emploi. Et donc, il y a une pression qui a été mise jusqu'à ce qu'il accepte de s'enregistrer. Et le jour où il s'est enregistré, il a découvert tous les à côté. C'est-à-dire que déjà, il faut re-signer chaque année. Hein. Ils sont très forts pour maintenir la pression. Et puis, à partir du moment où on a accepté quelque chose, c'est un engrenage. On va tout le temps te mettre la pression. On ne va jamais te lâcher. Ça veut dire aussi qu'il y a des journées d'endoctrinement obligatoires. Donc ça doit être d'un ennui sans nom. On doit assister à des séances de catéchisme marxiste pendant des journées entières et surtout montrer qu'on est bien attentif. On doit mettre le drapeau chinois devant l'église. Alors ça, les prêtres chinois à qui j'en parle, ils me disent « Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait le drapeau chinois devant chez moi. » Ce qui m'ennuie, c'est qu'on m'y oblige. Je trouve que leur attitude est très juste. Et on doit aussi mettre des livres de Marx, des livres de Ponte, de Mao, de Ponte du Parti communiste chinois, dans les églises. Donc des livres qui ouvertement sont anticléricaux dans les églises. Et donc il y a toute une série de pressions qui sont faites. Et en ce moment, le gouvernement chinois appuie particulièrement sur la transmission de la foi. Ils ont activé une loi qui existait avant mais qui n'était pas mise en œuvre, selon laquelle les mineurs n'ont pas le droit d'entrer dans une église. Et on n'a pas le droit de donner d'instructions religieuses aux enfants. Alors il y a un prêtre chinois qui, en riant, m'a dit que ça a eu un effet très positif, parce que maintenant, ce sont les parents qui s'occupent du catéchisme de leur enfant. Ils ne peuvent plus remettre ça au catéchisme, c'est eux qui font le travail. Donc ça a été très bien pour qu'ils s'impliquent dans la transmission de la foi. Ce n'est pas évidemment ce que le Parti communiste souhaite.
Naturellement, oui.
Non, mais ça a des effets délétères par ailleurs, parce que même une mère qui veut rentrer à l'église avec son bébé, maintenant, il y a des régions où ça leur est refusé. La Chine est grande, c'est un empire, il y a des régions où ça se passe pas pareil, Mais il y a une pression comme ça.
Mais vous expliquez notamment quand même que lorsque ce prêtre a décidé de s'enregistrer, donc de passer de la clandestinité à l'église officielle, ses paroissiens se sont détournés de lui.
Oui, tout à fait. Parce que
c'est terrible pour un prêtre.
Il est privé de sa vocation. Je le décris en train de dire sa messe tout seul dans son appartement, comme il y a des milliards d'appartements en Chine entre ses deux parents. Et c'est tout ce qui lui reste parce que effectivement, il n'y a pas l'aspect, si vous voulez, héroïque, magnifique des martyrs de Nigeria. C'est une autre forme de martyr qui est plus mystérieuse encore. Mais il continue à vivre sa vocation de prêtre tout en étant privé par l'action du Parti communiste chinois.
Bientôt, mademoiselle, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie à la lecture de ce livre, s'ils veulent en savoir plus naturellement sur la situation de l'Église en Chine, la manière dont l'AED peut les aider. Je renvoie donc à votre livre « Témoins de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps » que vous publiez aux éditions Arthège. Merci beaucoup à vous d'être venu justement témoigner de ces apôtres de notre temps, Thomas Wahl, et puis nous poursuivrons à nouveau avec plaisir pour évoquer ces termes d'une actualité très, très dure, très triste et très malheureuse, mais riche, riche pour nous, effectivement, par ces témoignages extraordinaires. Merci beaucoup à vous, Thomas Wahl.
Merci de nous avoir écoutés.